Je me présente, si vous voulez bien, parce que peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis le père François de Sales, je pense que vous avez retenu le nom. Je suis père hôtelier depuis très longtemps au monastère. À ce titre-là, donc, je vois beaucoup de personnes venir et je vois qu'il y a pas mal de visages qui sont connus. Je suis également aumônier du chapitre Sainte-Madeleine et du chapitre Saint-Lazare, qui fêtera d'ailleurs demain ses 20 ans donc, au lycée Gerson. Et puis également, je suis aumônier d'un autre chapitre, le chapitre Saint-Agricole, qui est un chapitre non pas pour les agriculteurs de Provence, hein, mais c'est pour donc les familles. Saint-Agricole est un bénédictin, patron d'Avignon, et donc nous avons lancé ça une vingtaine d'années, parce qu'on s'était aperçu que c'était pas si facile que ça que de lancer dans le mariage. Donc je connaissais plusieurs jeunes filles qui étaient enceintes avant le mariage, d'autres couples qui étaient en difficulté, tout jeune pourtant, et donc on s'est lancé avec un ami pour faire ce chapitre Saint-Agricole pour pouvoir aider ces jeunes en difficulté, un petit peu comme dans l'esprit du chapitre Sainte-Palaine, qui est un mouvement apostolique dans le but d'aider des jeunes en difficulté au niveau de la foi. Et maintenant, eh bien, on a changé d'optique dans le chapitre Saint-Agricole, et on a changé dans le sens que maintenant on fait plus de la guérison, on fait de la prévention. Parce que depuis 20 ans, les choses ont changé et on s'aperçoit que pour les couples, c'est pas forcément très facile. Et on va en parler un petit peu des difficultés qu'on rencontre les couples. Et donc voilà, donc je suis aumônier de tout cela. Mais surtout, je suis moine, ça paraît pas, mais je suis moine, et moine contemplatif et très heureux de l'être. Et je me réfugie dans la clôture dès que je peux. Voilà, donc on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On a la chance de faire cette récollection. Je ne sais pas s'il y en a qui ne me voient pas trop là. C'est vrai que ça manque d'estrade, mais c'est pas grave. Donc, et puis je ne suis pas très grand non plus, mais c'est pas grave. Donc, alors, on a la chance de faire cette récollection pendant ce temps de carême. Et c'est vrai que le temps de carême est un temps de conversion. Et comme vous êtes mariés, c'est bien de se convertir à deux. C'est quand même plus simple. Ça permet de se tirer ensemble. Et le thème que j'ai choisi, vous le connaissez, je pense qu'il a été annoncé, je ne sais pas trop. Comment ranimer la flamme dans votre couple? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, quand on est jeune, pas besoin de ranimer, elle est là, la flamme, c'est évident, quand on s'aime, tout va bien. Au bout de quelques années, on se dit, ça peut être pas mal de la ranimer quand même, peut-être des choses à revoir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire précisément. Donc le but de cette récollection, c'est de revoir tout d'abord les bases du mariage. Je sais que moi, quand un prêtre arrive pour nous prêcher des retraites, parce que nous aussi, on a beau des professionnels de la vie contemplative, on a besoin aussi de s'arrêter et faire des retraites. Et je suis content que le prédicateur nous parle de la vie religieuse, nous parle des vœux de religion et qu'il ne parle pas d'une thèse qu'il a faite, très brillante, peut-être sur Origène, il passe. Hein. Mais donc ça ne nous intéresse pas trop et c'est pour ça que je pense que c'est bien que de revoir des bases. On a besoin de rafraîchir les choses qui sont essentielles. Cela permettra de prévenir ou de sortir de certaines crises que vous pouvez rencontrer en tant que couple. Il se trouve également que cette récollection se passe au mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois de... Ah, vous êtes bien formé, hein, le mec il est, c'est impressionnant. Donc, c'est la Saint-Joseph, donc le 19. Et vous savez que Saint-Joseph, c'est le chef de la famille. Et donc, c'est le patron, le protecteur de la famille. C'est un intercesseur très puissant pour la famille et pour les couples, et notamment pour les pères de famille. Il y a 15 jours, j'étais à Cotignac, vous connaissez certainement, parce qu'il y en a qui font notamment les mamans, qui font des pèlerinages à Cotignac, avec certains pères d'ailleurs du monastère. Et j'étais impressionné par les grâces qu'ont reçues justement des couples du chapitre Saint-Agricole, et notamment un père de famille qu'on a recommandé pour cette récollection-là, qui était en grave difficulté, il m'a dit juste avant que je parte en récollection, mon père prie pour moi parce que je crois que je suis à bout et je vais quitter ma femme. Un oblat du monastère, donc c'est pas, vous voyez, quelqu'un qui est éloigné, mais ça fait des années que c'est difficile. Et au retour, il m'a envoyé un mail retour de mon retour de Cotignac, il m'a dit, mon père, j'ai pas trop compris, mais j'ai reçu des grâces immenses dans ce week-end. Et finalement, je crois que je vais rester quand même. Donc, et ben voilà, nous on avait prié à Cotignac, toutes les familles avaient prié pour lui. Donc Saint Joseph est extrêmement puissant pour pouvoir toucher les cœurs. On va faire un petit peu de psychologie si vous voulez durant cette récollection, parce qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place, c'est vrai, mais n'oublions jamais, jamais, que le salut des couples vient surtout par la grâce. Comme on est humain, il y a forcément des choses à connaître aussi d'un point de vue humain et à mettre en place, mais comme on est surnaturel, par le fait qu'on a une âme donc, qui est immortelle, créée par Dieu directement, c'est la grâce surtout qui va toucher notre âme. Voilà, donc vous savez aussi qu'à Cotignac, la Vierge est apparue un siècle avant, donc avec l'enfant Jésus dans les bras. Donc Cotignac, c'est le lieu de la Sainte Famille par excellence. Donc tout ça pour vous dire que si vous ne savez pas quoi faire durant vos vacances, eh bien n'hésitez pas à aller à Cotignac, de prier Saint Joseph, la Vierge, Notre-Dame de Grâce et l'enfant Jésus. Je pense que ça pourrait être que très bénéfique pour vous. Alors Saint Joseph protège, c'est vrai, la famille, mais la Vierge aussi protège la famille. Nous avons au monastère une stèle, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais enfin une grande sculpture sur pierre, grandeur nature, de Notre-Dame de Guadeloupe. Je pense que vous connaissez tous Notre-Dame de Guadeloupe, au moins de nom. Cette Vierge, donc incroyable, du Mexique, il y a 20 millions de personnes qui passent par an pour voir Notre-Dame de Guadeloupe. Il y a 3 tapis roulants devant l'image de Notre-Dame de Guadeloupe pour dire que le nombre qui passe, 70 000 personnes en moyenne, donc c'est par jour. Donc c'est colossal. Et ce qui me marque moi le plus dans Notre-Dame de Guadeloupe, parce que j'ai étudié ça il y a déjà bien longtemps, depuis... comme il y a plein de personnes, notamment le père Jean-Baptiste de la Grâce, qui est un grand spécialiste. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est ce qu'il y a dans les yeux de la Vierge. Vous connaissez en gros. Je me lève parce que c'est impressionnant quand même pour voir ça. Donc, vous savez, le pancho, c'est comme un scapulaire. Vous voyez, donc la Vierge est apparue à Juan Diego, donc 51 ans. Il me demande de faire construire une chapelle. De Juan Diego, je fais très vite. Hein. Donc, Juan Diego va voir l'évêque dit non. Moi je veux un miracle. Il revient, il dit à la Vierge, vous voyez, je l'ai bien dit, moi j'ai un portefeuille, je suis un pauvre homme, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Il dit, ok, il veut un miracle, très bien, tu vas sur la colline d'à côté et tu récupères les roses qui sont là et tu lui amènes. Donc il prend les roses dans son pancho comme ça et il arrive devant l'évêque et il ouvre le pancho, paf, les roses tombent, l'évêque et tous ceux qui étaient avec lui, donc le traducteur, il y avait aussi une femme noire qui avait été donc, esclave, qui l'avait affranchie, et puis d'autres indiens et espagnols, tous tombent à genoux. Non pas à cause des roses, mais à cause de l'impression qui se fait immédiatement sur le pancho de la Vierge. On a fait des études, il y a une trentaine d'années, docteur Tansman, et qu'est-ce qu'il a vu, docteur Tansman, dans les yeux? Eh bien, il a vu les personnages qui étaient là au moment où la Vierge donc, est apparue sur le pancho. Et donc, il y a l'évêque dans les yeux, son traducteur, donc cette femme noire, un noble espagnol, un indien, il y a tous ceux qui étaient présents. Mais vous savez que dans la pupille des yeux, c'est ce qu'on regarde. Après, il y a la cornée, donc ça fait un miroir en quelque sorte. C'est là où se représentent, où se reflètent tous les personnages. Mais dans la pupille de la Vierge qui regarde le sol, eh bien, il aurait dû avoir quoi? Les roses. Il n'y a pas un pétale de rose. Pas un. Par contre, il y a dans les yeux de la Vierge une famille. Avec le père, la mère qui porte un enfant, avec 2 petits-enfants à côté, également les grands-parents à côté. C'est fou quand même. C'est un miracle. Si vous voulez, pour moi, c'est une bombe à retardement. C'est un peu comme le Saint-Suaire. Vous connaissez le Saint-Suaire? Donc, le Saint-Suaire, on a découvert, c'était en tridimension au 19e siècle, le siècle du scientisme. où la science allait enfin démontrer que toute la religion c'était de la foutaise, quoi. Et eh bien, c'est à ce moment-là précisément que, grâce à cette photo, on s'aperçoit que c'est un négatif, et ça pouvait pas être un faux. Donc c'est au moment précisément où la science voulait détruire la religion, que c'est au nom de la science qu'on a détruit le scientisme, en montrant que Dieu existait d'une certaine manière de par ces censures-là. Et là, c'est pareil. On a la même chose avec la Vierge Notre-Dame de Guadeloupe pour la famille. C'est au moment où le Pax passe, où l'avortement aussi, bien sûr, mais surtout le divorce, tout ça s'est officialisé. Au moment où tous les couples explosent d'une certaine manière, eh bien, la Vierge vient nous dire « Ne touchez pas la famille, c'est la prunelle de mes yeux. Ne touchez pas la famille, c'est la prunelle de mes yeux. » C'est un message qui est extrêmement fort, qui était découvert précisément donc au moment où la famille était en danger. Alors que l'apparition, c'est le XVIIe siècle. Hein. Donc, mais ça, on l'a découvert comme pour le Saint-Suaire. À chaque fois, la Providence fait les choses pile au moment où il faut. Donc ça, c'est important de garder tout cela, vous voyez, en vous-même, parce que nous sommes aidés. Il ne faut pas croire que nous sommes seuls. Seuls, nous ne sommes pas grand-chose. Mais avec la grâce, l'aide de la Vierge, de Saint-Joseph, eh bien, nous sommes forts. Alors, le thème de la première conférence, ça, ce n'était que l'introduction, vous voyez. C'est pour dire le déploiement que ça va donner. Non, j'espère pas quand même. Première conférence, comment se donner pour aimer sans oublier de s'aimer soi-même. Donc ça, c'est le thème de la première conférence. Après, il y en aura deux autres qui vont suivre dans la journée. Alors tout d'abord, comment se donner, première partie, comment se donner pour aimer. Après, on verra. Donc, ne pas oublier de s'aimer soi-même. L'origine de l'amour vient de Dieu. Il vient du don de soi. Et ce don de soi vient de la Trinité. Le Père, il se donne totalement au Fils. Et le Fils, il reçoit totalement le don de son Père. C'est ce qui fait qu'il est Fils. Et ce va-et-vient du don de soi, entre le Père qui se donne et le Fils qui reçoit le don de soi, eh bien, fait une troisième personne, qui est le Saint-Esprit, qui est en fait l'amour entre le Père et le Fils. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais que on peut réaliser par ce que vous vivez dans vos couples. L'union d'un homme et d'une femme est tellement puissant qu'une troisième personne va en sortir. C'est à l'image de la Trinité. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc quand on veut savoir un petit peu ce qui se passe en Dieu, il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur la terre, comment se passent les choses sur la terre, comment Dieu a fait les choses sur la terre. Car quand on agit, chacun d'entre nous, quand on agit, on laisse la trace de nous-mêmes. Si on est perfectionniste, tiens, mon épouse, elle est passée, vu comment c'est rangé dans le frigo, ça c'est sûr. Et après, c'est complètement le bazar, tiens, ça y est, ma fille qui est passée, là c'est sûr, parce que vu le bazar que c'est dans le frigo, donc c'est sûr qu'elle est passée. On laisse des traces, et en Dieu, c'est un petit peu la même chose. Donc, le don de soi dans le mariage, c'est important de le comprendre. Je vais vous faire une confidence. Quand je suis rentré au monastère, j'étais au lycée, je suis un converti des banlieues de l'Est, je suis désolé, je ne suis pas du côté de Versailles du tout, mais je suis donc à l'opposé de chez vous, et je détestais Versailles et tout ce côté bourgeois, tout ça, franchement, moi, c'était l'horreur pour moi, c'est l'incarnation de l'opposition de ce qu'on était, nous, dans notre banlieue. Je suis désolé, hein, je suis très franc. Hein. Donc, mais entre-temps, je me suis que, comment dire, j'ai changé mon point de vue, parce que j'ai appris à vous connaître. Et voilà. Et quand je suis rentré, bah, je voyais mes amis qui commençait à se fréquenter un petit peu, voilà, en vue peut-être d'un mariage, bien sûr. Et moi, ça m'agaçait un petit peu. Je ne vous cache pas que ça m'agaçait même profondément. Comme converti, je me disais, mais ce qui est important, c'est quand même Dieu, c'est une vie qui est totale, c'est une vie qui est entière, quoi. Pas de médiocrité comme ça, quoi. Pas de truc, ça, franchement, c'est. Parce qu'en fait, je voyais le mariage comme un égoïsme, comme quelque chose qui était très personnel, où on se recherchait. Et je suis entré dans cette mentalité-là, au monastère. Et puis au monastère, j'ai fait des études. Et j'ai étudié ce qu'était que le mariage. Et là, ils m'ont expliqué qu'en fait, la matière et la forme du mariage, c'était le don de soi. Et donc, que justement, dans le mariage, eh bien, on allait se donner à l'autre, et que l'autre allait accepter le don de soi. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, c'est pas de l'égoïsme. C'est le fait de se donner totalement. Et c'est ce don-là qui m'intéressait dans le christianisme. Et je me dis, ah, le mariage, c'est quand même pas mal. Mais je vous rassure, ça m'a pas fait changer d'avis pour autant. Donc, mais en tout cas, là, j'ai vu la grandeur du mariage. Alors, voyons un petit peu ce que c'est justement que le mariage. Tout d'abord, vous savez la définition du mariage, un sacrement institué par Jésus-Christ pour établir entre l'homme et la femme une union indissoluble en vue d'élever des enfants et de se prêter un mutuel appui dans la vie commune. Donc dans tous les sacrements, il y a une matière, une forme, ça vous l'avez pris au catéchisme et vous l'enseignez à vos enfants. Et la matière du mariage, pour faire court, on va dire, c'est le don mutuel de chacun à l'autre. Donc il faut se donner. Et la forme du mariage, c'est l'acceptation du don de l'autre. Je prends un exemple. Je prends un stylo. Jeanne, est-ce que tu acceptes? Est-ce que vous acceptez mon stylo? Oui? Oui, bien sûr. C'est bien, c'est bon, mon stylo. D'accord. Et vous, est-ce que vous acceptez de me donner votre stylo? Ah, c'est ça le problème.
Oui.
Vous acceptez? D'accord, très bien. Donc là, ça marche. Mais le problème, c'est ça dans le mariage. Et vous, je pense que vous touchez du doigt le problème. C'est que, vous savez, il y a une expression qui dit « Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à moi. » C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez le stylo à une personne, vous donnez votre stylo à une personne, la personne accepte ou pas le stylo. Quelquefois, elle accepte, mais elle ne redonne pas le stylo en retour. Donc, elle garde les deux stylos. Et vous, n'avez plus de stylo. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va plus dans le mariage. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler. Est-ce que vous êtes vraiment dans le don de vous-même? Et si vous n'êtes pas dans le don de vous-même, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne peut pas marcher votre mariage. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que quand je prépare des jeunes au mariage, je veille à ce qu'ils soient dans l'amour, non pas captatif, mais l'amour oblatif. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est que l'amour oblatif et l'amour captatif. L'amour captatif, en fait, je m'aime à travers l'autre. C'est-à-dire que j'aime l'autre personne parce qu'elle est sympathique, voilà, intelligente. Quand je sors avec elle, ça fait bien de présenter une jolie femme à côté de moi ou un homme qui est quand même bien, qui présente bien. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois il m'invite au resto, c'est lui qui paye, c'est très bien. Et donc vous voyez qu'en fait, on s'aime à travers l'autre. Mais ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est l'amour oblatif. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se donner à l'autre. Et de se sacrifier pour l'autre. Un jour, un même fils spirituel me dit, mon père, vous savez, je fréquente une fille, voilà, j'aimerais bien vous la présenter. Et bien, très bien, quand tu veux. Il m'appelle et plus tard, il me dit, voilà, je viens avec elle, je fixe une date. Donc, bah, parfait. Il me rappelle deux jours avant, mon père, je ne sais pas comment vous dire ça, mais là je suis vraiment gêné vis-à-vis de vous. En fait, ben voilà, je viens de casser avec elle. Et bon, mais c'est pas tout. En fait, elle veut vraiment venir et vous rencontrer. Mais moi, je ne viendrai pas, évidemment. Bon, ben écoute, oui, si tu veux, donc dis-lui que oui, je suis disponible. Donc elle arrive, elle rentre au parloir, on discute un petit peu, elle s'effondre en larmes. Et à un moment donné, elle me dit une chose. « Mais s'il doit être heureux sans moi, je suis heureuse pour lui. » Elle était prête au mariage. Peut-être pas lui d'ailleurs, mais elle était prête au mariage. Parce qu'elle était dans l'amour oblatif. Elle était prête à se sacrifier, oblation, amour oblatif. Prête à se sacrifier pour l'amour de l'autre. Et si vous n'arrivez pas dans cet état-là, au moment du mariage, c'est ce que je dis aux fiancés, c'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Parce que quand arriveront les problèmes, à ce moment-là, ça va casser. Parce qu'au début, tout est rose. Rappelez-vous, c'était merveilleux. Elle était merveilleuse, cette fille. Elle était là à l'heure, exactement au rendez-vous, même une demi-heure à l'avance. Elle était souriante, tout ça. Oh, mais c'était une fille fantastique. Vous voyez, comme la mer, vous voyez. Quand elle est haute, ça va. Mais quand elle se retire, attends, mais là, il y a une épave, là. Ah, mais il y a un gros rocher là, ah, puis une méduse. Donc, et vous voyez, on découvre les choses au fur et à mesure. Et oui, au début, tout est rose. Et si on a un amour égoïste, captatif, eh bien, on dit stop, moi, c'est pas cette femme-là que j'ai épousée. On n'est pas prête à se donner pour la personne, avec toutes ses qualités et tous ses défauts qu'elle a. Vous saisissez un petit peu ce que je veux dire. Donc ça, c'est toujours une question qu'il faut se reposer régulièrement dans le mariage. Est-ce que je suis toujours dans l'amour oblatif? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour cette personne-là que le bon Dieu m'a confiée? En fait, le mariage, le bon Dieu vous confie une personne. On m'appelle une femme qui est son mari, l'avait quitté. Il dit, je sers à quoi maintenant? Il m'a quitté. Ben, vous pouvez encore prier pour lui. Parce que Dieu vous l'a confié, et vous avez encore la prière et les sacrifices pour lui tenir la main, pour l'emmener au ciel. En fait, on confie une personne. Et le problème, c'est que dans le mariage, il y a toujours une volonté de le petit ego avant tout. Moi avant tout. Lui après. Et ça, ça ne marche pas. Ça marche un temps, après ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est une chose importante. Notre Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps j'ai, mais bon. Tant qu'il n'est pas là, je continue. Alors, c'est pourquoi je pense que, voyez, il faut à l'occasion des anniversaires de mariage faire un petit bilan peut-être sur votre couple et vous redire le oui de votre mariage. C'est vrai que nous, les religions, on le fait chaque année, à la fin de la retraite annuelle, on reprononce nos vœux. Mais c'est avec joie qu'on le fait. On dit au Seigneur, Seigneur, je me redonne à vous, totalement. Ok, c'est pas forcément facile. C'est pas ce que j'avais tout prévu comme ça, mais je suis heureux de me redonner. Eh bien, ça doit être pareil. Chaque année, profitez de l'anniversaire du mariage pour vous redire, oui, je te rechoisis. Non pas que vous avez douté de lui, mais un engagement de nouveau que vous faites avec tout votre cœur. Alors, deuxième partie, ne pas oublier de s'aimer soi-même. Là, j'ai beaucoup parlé du don de soi à l'autre, mais il ne faut pas non plus faire de l'angélisme. L'importance, tout d'abord, de ne pas oublier de s'aimer soi-même. Vous connaissez la phrase peut-être, une charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors ça, c'est la phrase qui choque en général quand on ne l'explique pas. Parce que mais moi je croyais que le christianisme c'était l'inverse. Donc c'était qu'il fallait penser aux autres avant de penser à soi-même. Rappelez-vous par exemple, à la fin des temps, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et les gens disent, mais quand est-ce qu'on vous a vu nu? Quand est-ce qu'on vous a vu avoir soif en prison? Mais ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, d'où l'importance, vous voyez, de penser aux autres avant de penser à soi. Oui, mais attention, ça c'est dans l'ordre matériel et corporel. Ce qu'a dit notre Seigneur, voilà, j'étais en prison, j'avais faim, j'avais soif, tout ça c'est du matériel. Mais dans l'ordre spirituel, au niveau de l'âme, c'est l'inverse. Une charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que notre Seigneur l'a dit, à quoi bon gagner le monde si vous venez à perdre votre propre âme? Donc, c'est important de travailler donc au salut de notre âme si on veut pouvoir travailler au salut de l'âme de l'autre. À votre avis, il y a combien d'objets de charité? Le silence est imposant. Je conçois que c'est délicat, parce que si on trompe, devant tout le monde, ça fait mal. Donc, je vais le dire. Donc, il y en a deux, c'est ça? Combien d'objets de charité? Combien? Il y a Dieu et le prochain, c'est ça. Et on oublie toujours le troisième, qui est nous-mêmes. On doit s'aimer, personnellement. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. C'est pas bien. Dieu nous aime. Donc on doit s'aimer. Parce qu'au moins Dieu nous aime. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Et cela vaut dans le mariage. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas une fusion de deux personnes en une seule personne. C'est une communion de personnes. C'est-à-dire que les deux personnes doivent se sanctifier personnellement, mais aussi ensemble. Et ça va être une communion, le mariage, entre deux personnes. C'est là la différence avec toute la spiritualité bouddhiste, hindouiste ou autre, où le but, c'est de perdre la personnalité, le « je », pour se fondre avec, dans le tout divin. En arrivant, vous savez, en faisant monter la kundalini à travers les chakras jusqu'au sommet du crâne, et on arrive à ce moment-là donc au moksha, samadhi, oui, toutes les expériences que vous avez faites quand vous étiez jeune, rappelez-vous. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas une fusion. Dans le mariage, c'est une communion. Mais pour ça, il faut des personnes construites, des personnes qui sont saintes. Deux saints qui se marient, mais c'est du béton, quoi. C'est incassable. C'est comme deux briques que vous cimentez. Vous donnez un coup dans une brique, l'autre brique bouge en même temps. Ça fait qu'une seule brique en quelque sorte. Et donc ça, c'est important. Donc il faut se construire personnellement, ne pas oublier donc de se construire. Et alors vous direz, ben oui, mais il faut construire à deux. Mais je vous donne un contre-exemple. Imaginez que un contre-exemple par rapport au don que vous devez faire de vous-même à l'autre. Jusqu'où doit aller ce don? Eh bien, il doit aller jusqu'à l'extrême de certaine manière, sauf si ça touche au salut de votre âme. C'est le cas, malheureusement, vous voyez, des séparations qui peuvent avoir lieu dans un couple parce que l'un est devenu alcoolique, ou il est violent, ou il est pervers narcissique, et à ce moment-là, pour le salut des âmes, de la victime entre guillemets, entre autres, eh bien, il faut une séparation des corps. Donc voilà, donc il faut quand même penser que il faut se sanctifier soi-même. Alors comment s'aimer soi-même? Tout d'abord, il faut aimer son corps. Alors vous me direz, oui, c'est un peu bizarre d'aimer son corps. Si, c'est important d'aimer son corps. Alors, pas comme le monde le fait, où en fait le corps est une idole. Et donc, il n'y a rien de plus important que la santé, non, c'est pas vrai. Cependant, le corps humain est une chose importante. Si on fait fi du corps, à un moment donné, si vous n'avez pas un équilibre de vie personnelle, une hygiène de vie personnelle, eh bien, à un moment donné, vous n'irez pas bien. Et en n'allant pas bien, eh bien, vous êtes déstabilisé votre couple. Et un père du désert disait, si l'on tire trop longtemps sur l'arc, il casse. Et même le Saint-Curé d'Ars, vous voyez, qui était connu quand vous allez à Ars, vous voyez donc sa casserole, sa marmite, on disait qu'il mangeait que des pommes de terre et tout ça. Si vous lisez vraiment la vie du Saint-Curé d'Ars, vous apercevez que c'était les premières années. Après, il s'est complètement détérioré sa santé et il est obligé de prendre un peu de lait, un peu de pain, un peu de ceci, cela, pour continuer à vivre. Donc il y a un équilibre à tenir. Et quand je dis ça, c'est important parce que vous voyez, pour les pères ou les mères de famille, ils ont tendance à négliger leur corps, voire leur psychisme aussi, notamment au niveau de la nourriture. Ah, j'ai pas le temps, je mange sur le pouce, tout ça, ok, très bien, ça dure un certain temps ça. Et après, quand vous aurez une santé avec les années qui seront un petit peu délabrées, ben vous apercevrez que c'est important de cuisiner, d'avoir des repas qui soient équilibrés. Le sommeil, c'est pareil. Au début, on y va à fond, notamment les pères de famille au niveau du travail, les mères de famille aussi avec les enfants, hein, qui est notamment la nuit où il faut se lever pour les allaiter. Il faut faire attention, donc avoir un minimum de sommeil. Au point de vue de la santé physique, donc, vous voyez, par exemple, un de nos frères, je ne le citerai pas, il a une boutade qui dit « Quand on ne prend pas le temps de s'entretenir, il faudra le prendre pour se soigner. » Alors, tous les matins, il fait l'exercice physique, alors on entend dans sa cellule, c'est assez impressionnant quand on passe dans le couloir, il fait en train de faire l'exercice physique, mais il est extrêmement rigoureux, donc c'est un ancien militaire, donc voilà, c'est... Et je crois qu'il n'a pas tort. Et les psychiatres disent qu'il faut 40 minutes, 3 fois par semaine, d'un sport intensif, quoi, intensif, c'est une marche rapide, ou du vélo, ou de la natation, ou autre, pour donc être bien... d'un point de vue psychologique, et tout ça, je pense que c'est des choses qu'il faut savoir entendre, parce que quand on les entend pas, il faut le payer un jour. Donc même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, comme on dit aujourd'hui, je déteste cette expression, pensez à vous-même. Donc comment c'est prenez soin de vous-même. Voilà, prenez soin de vous-même. Alors ça, au début, c'était agaçant d'entendre ce truc-là. Donc que Covid, prends soin de toi-même, c'est bon, merci. Non. Mais n'empêche qu'il y a du vrai quand même. Vous savez, nous les bénédictins, on n'est pas des spécialistes de quoi que ce soit, on a une vie qui est assez équilibrée. On dirait, quand on voit notre horaire, on dirait, on en doute un peu, quoi. On a matine à 3h30, on a des jeûnes, je ne sais pas combien de fois, on jeûne pendant tout le carême, on a des vies assez... Mais n'empêche que quand on voit la règle de Saint-Benoît, c'est pour ça qu'elle a perduré depuis le 6e siècle, c'est qu'elle est quand même équilibrée. Donc il y a une alternance entre le travail, par exemple, et la prière. Et le père abbé est un bon père, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas aller à la matine parce qu'ils ont des problèmes de santé ou autre, parce qu'ils ont fait un voyage, ben les dispense comme un bon père de famille. Et donc il y a un équilibre qui permet de durer dans le temps. Sinon, quand on a des vies religieuses qui sont trop exigeantes et trop cassantes, bon, en fait les religieux ne tiennent pas à la longue. Donc dans les familles c'est pareil. Moi, bon, il n'est toujours pas là, donc je continue. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. J'ai commencé à quelle heure? J'ai commencé à la nuit.
Ah, avec l'abbé Joachin, 10h30, 10h35.
Ah oui, on se voit. Alors, vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait donc entretenir son corps, avoir un certain équilibre dans son corps, également dans son esprit. Alors, j'entends l'esprit et surtout l'intelligence. Alors il ne s'agit pas de devenir des intellectuels. Nous les bénédictins, on n'est pas du tout des intellectuels, et moi-même vraiment pas. Mais par contre, on est tenu à entretenir quand même certaines formations. Et ceci est important. Regardez bien dans vos vies. Le cerveau est comme une machine qui tourne en permanence. Si on ne mettait pas du bon grain dans cette machine, qu'il soit moulu et ça donne de la farine, si vous ne mettez pas du bon grain, eh bien la machine va tourner, mais à vide. Et tourner à vide, c'est quoi? Eh bien vous êtes pris par tous vos soucis matériels. Vous avez brassé du matériel. C'est le drame des mamans en général, des mères de famille. Elles n'ont pas le temps de lire, ou elles disent qu'elles n'ont pas le temps de lire, donc elles pensent quoi? Covoiturage. Les repas à préparer pour les enfants ou pour le mari, c'est que du matériel. Et bien, elle se dessèche complètement. Parce qu'en fait, on a un esprit
on a un cerveau, on a une machine qui est faite pour mettre du grain, pas pour tourner à vide. Sinon, ça grince, ça casse la machine. Et donc, c'est important de se nourrir. Alors, chacun à son niveau, chacun comme il veut ou comme il peut, mais il faut absolument donc entretenir donc notre intelligence. Je me rappelle un garçon qui a épousé une fille qui était mais splendide, une fille mais magnifique, une Miss America, et tous les critères franchement étaient donc absolument magnifiques, cette fille-là. Mais le problème, c'est que cette fille-là, elle n'avait pas grand-chose dans le cerveau. Et il me disait, oui, c'est bien, quoi. C'est vrai, quand je me suis marié, les photos étaient superbes et tout le monde me félicitait. Mais au quotidien, c'est difficile. Parce qu'en fait, il n'y a aucune discussion possible. Elle ne connaît rien, mais rien de rien. Donc en géographie, en histoire, en philosophie, en spiritualité, rien. Alors tu parles de quoi? Bon, bah tu parles de chérie, tu fais quoi ce soir à dîner? Très bien, à des pizzas, super, ouais. Donc très bien, mais il n'y a que ça, quoi, que du matériel. Et une jeune fille me disait là qu'elle était bon en lien plus ou moins qu'un motard. Bon, j'ai rien contre le motard, hein, donc j'étais motard moi-même dans un banlieue. Donc, mais en fait, oui, c'est vrai que bon, les motards sont pas très intellectuels en général. Elle m'a dit, mais moi, j'arriverai pas à vivre avec lui. Parce qu'en fait, au niveau intellectuel, c'est très très limité, quoi. Donc c'est important de continuer à se former. Donc même si on part de très peu, eh bien après, au fur et à mesure, on apprend à se former et on apprend à travailler et on apprend à donner du résultat. Et bon, le résultat, c'est aussi pour vos enfants. C'est très important. Si vous connaissez rien, vous allez faire comment avec vos enfants? Ils vont rentrer d'école, ils vont dire, maman, c'est quoi l'évolutionnisme? Mais écoute, tu sais, l'abbé Joachin, il va venir ce soir, donc tu lui demandes. Et d'accord, maman. Et puis, ainsi de suite, à chaque fois, il faut aller voir monsieur l'abbé. Vous voyez? Et vous êtes incapable de répondre aux questions de vos enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, vos enfants? Vous voyez, en fait, papa et maman, ils ne savent rien. Donc moi, je vais demander à d'autres personnes. Et là, vous allez apercevoir que l'influence sur vos enfants ne sera pas forcément la meilleure. Donc, moi, je vous conseille d'avoir quand même un minimum de formation. Alors, vous savez, dans la formation, on n'est pas obligé de tout retenir. Mais ce qu'il faut retenir, au moins, c'est les conclusions. Et savoir où retrouver les arguments. Un jour, vous aurez vu une vidéo, par exemple, de notre homme de chrétienté. Hein. Je vous la recommande, elle est extraordinaire. Faite par un professionnel qui est... Et franchement, ça vaut le coup. Vous voyez ça, et 15 jours après, vous avez tout oublié, sauf la conclusion. Mais vous savez qu'il y a une vidéo qui se trouve sur le site de Notre-Dame de Chrétienté, où là, on vous explique la question de l'oraison. Voyez. Et là, vous allez revoir la vidéo, où vous envoyez la personne, tiens, ça t'intéresse, bah tiens, va voir sur le site de Notre-Dame de Chrétienté. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est de retenir les conclusions et savoir où retrouver. Et ça, ça vaut pour vous-même, pour vous nourrir, encore une fois. Pour votre dignité personnelle, hein, parce qu'on a l'intelligence qu'il faut développer, mais aussi pour votre couple, donc pour l'autre, lui apporter quelque chose. Tu sais, chérie, j'ai un livre super en ce moment, je suis en train de lire, hein, j'ai acheté au Barbouze, c'est fantastique, c'est ce livre. Et mais on apporte quelque chose. C'est bien avant de s'endormir, je connais des couples qui font ça. Et il y en a un qui lit pas beaucoup, on va dire, et l'autre qui lit beaucoup. Donc, celui qui lit beaucoup, il raconte ce qu'il a lu. Comme ça, il fait partager à l'autre. Il y a une petite formation qui se fait comme ça pour l'autre. Et puis pour les enfants, encore une fois, c'est important. Il faut que les enfants puissent savoir qu'à la maison, tout d'abord, ils auront de l'amour. Ils auront de l'amour. C'est là où ils seront bien, effectivement. Et c'est là aussi qu'ils auront des réponses à leurs questions. C'est aussi très important. Donc vous voyez que la formation est quelque chose d'important. Alors vous avez par exemple, pendant le carême, vous avez différentes petites vidéos qui existent, que je vous recommande, par exemple Carême 40, je ne sais pas si vous connaissez par chez Méret, vous avez les missionnaires de miséricorde aussi qui ont fait quelque chose qui s'appelle Conversio, et puis il y en a d'autres certainement aussi hein, qui existent, et voilà. Donc vous voyez, là c'est une occasion pendant le carême de vous former. Alors c'est des choses spirituelles, mais très bien, le spirituel on a besoin aussi. Voilà, vous avez aussi donc des revues, des journaux, mais c'est important que, voilà, Alors pour l'âme aussi, il faut donc entretenir son âme. Je dis qu'il fallait entretenir, donc aimer son corps, aimer son intelligence, mais aimer son âme. L'âme, en nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est un cadeau incroyable. Nous sommes sortis du néant pour arriver dans la vie, pour l'éternité. Nous ne cesserons pas d'exister maintenant. Nous irons après dans une vie éternelle, au ciel. Il ne s'agit pas d'aller en enfer, vous êtes d'accord? Tout d'accord avec moi. On n'ira pas en enfer, donc on ira au ciel. Donc ça c'est clair. Pour nous, il n'y a pas de choix. On l'a déjà fait le choix. Donc je dis pas que tous iront au ciel, hein, je ne sais pas pour Paul Naref, donc, mais je veux dire par là que volontairement, l'espérance c'est de croire qu'on ira au ciel. Donc si évidemment on vit comme un chrétien. Mais voilà. Et donc, il faut aimer son âme, puisqu'elle est donnée par Dieu. Et vous savez, Saint François de Sales a quelque chose qui me plaît beaucoup. Il parlait à son âme. Et un jour, il voit son âme par terre, il dit: oh, mais qu'est-ce que tu fais partir? Tu ne vas pas rester par terre quand même. Allez, donne-moi la main. Et on va se relever, et puis on va continuer ensemble. Et quelquefois, il faut se parler un petit peu avec humour comme ça. Mais tu ne vas pas rester comme ça quand même. Allez, vas-y, relève-toi, va te confesser. Quoi. Ouais, mais c'est dur quand même. Mais tu vas pas rester comme ça. Ouais, je suis d'accord, allez, j'y vais. Donc, il faut se prendre un petit peu avec bonté. Il faut être bon avec les autres, mais bon envers soi-même aussi. Il faut être miséricordieux vis-à-vis de soi-même. Et ça, les femmes sont très dures envers elles-mêmes. Elles pardonnent quelquefois aux autres, mais elles-mêmes. Le bon Dieu leur pardonne, mais elles restent. Parce que quelquefois, vous voyez. Un petit peu d'amour propre aussi quelque part, dans le sens on se déçoit. Franchement, je suis trop nul, comme on dit. Donc, ben oui, c'est vrai. Mais il faut accepter justement, donc, de recevoir la miséricorde de Dieu. Voilà, donc, je vais m'arrêter ici pour cette conférence, parce que sinon je crois que ça va durer trop longtemps, puis le temps j'ai terminé. Et alors, j'ai préparé des textes pour vous. Puissiez travailler. Vous ne croyez pas que vous n'allez rien faire là, pendant une heure tranquillement dans le parc. Non. Vous allez travailler sérieusement. Donc M. Labbé a tiré des feuilles que je lui avais envoyées. Donc vous avez trois choses. Vous avez un questionnaire vital pour les couples. Alors, ça, c'est un truc que j'ai réalisé à partir d'un questionnaire qui se trouve dans le Michel du Barou. Là. Mais je l'ai adapté pour les couples. Donc questionnaire vital pour les couples. Donc la vie en Dieu. La vie dans le couple et la vie en famille. Donc c'est un questionnaire personnel. Donc c'est chacun d'entre vous qui allez lire cela. Évidemment, ça concerne bon, le couple et la famille, donc vous pourrez en rediscuter après. Et c'est des questions qu'il faut se poser à soi lors d'une récollection. Pourquoi pas aussi en vue d'une confession, ça peut être utile. Vous verrez que c'est assez percutant. Donc je suis désolé, hein, ça a remué certaines choses, je pense. Mais vous êtes là pour ça et je vous en remercie. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc ça, c'est ça qu'il faut faire. Je crois qu'on a un temps de prière, là. Et voilà. Donc ça, vous lirez ça. Après, pour le deuxième temps, de réflexion, je vous ai mis une autre chose qui s'appelle... Oui. Pour entretenir... L'amour dans son couple. Ça, on en parle là, c'est le devoir de s'asseoir, ça, je pense que vous connaissez le terme. Donc ça, c'est quelque chose à faire à deux. Donc, de se poser des questions. Une fois que vous aurez travaillé vous-même déjà le questionnaire vital, vous pourrez travailler cela. Donc c'est avoir ensemble, voilà, notre joie, nos déceptions, nos soucis, faire plaisir à son conjoint, tout ça. Donc ça pourrait vous aider à travailler un petit peu ensemble. Et puis, pour le troisième temps de réflexion, j'ai sorti une règle de vie. Les règles de vie familiale, alors ça c'est le truc, mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment basique de chez basique, hein, c'est tout vraiment élémentaire, mais quelquefois ça permet voilà, de revoir des choses qu'on avait oubliées. Bon, voilà, moi je vais vous donner cet ordre-là, je pense que c'est bien de le respecter, mais maintenant c'est pas un péché mortel de ne pas le faire, non, ni vénial. Donc à vous de voir.